Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Hypocondriaque fait partie de ces termes du vocabulaire médical passé dans le langage courant pour désigner le plus souvent, non pas une maladie ou un trouble, mais plutôt un simple trait de caractère. Cette banalisation a tendance à minimiser et au pire stigmatiser les angoisses de ces personnes. S'arrêter sur le moindre symptôme et de fil en aiguille, sentir monter la crainte, puis une forme de certitude d'être atteint d'une pathologie grave, sinon incurable, chercher des heures sur internet de mots-clés en forum en passant par des sites spécialisés, si cette petite tache sur la peau ne serait pas le signe avant-coureur d'une maladie chronique, voire même d'un cancer. Et lorsque l'on traverse une crise sanitaire, ce que nous vivons depuis maintenant 6 mois, il est peut-être encore plus compliqué de se rassurer, de rester calme, lorsque journaux télévisés et spots d'information alertent, mais parfois aussi inquiètent. Comment prendre en charge ce trouble anxieux ? Est-il aujourd'hui plus fréquent ? Témoignage, éclairage, c'est tout de suite dans Priorité Santé. Et pour répondre à nos questions avec nous en studio, professeur Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef de service à l'hôpital Henri Mondor, professeur de médecine à l'université Paris-Est-Créteil. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Burkina Faso le docteur Gloria Damoaliga-Bergès. Elle est médecin généraliste, chef de service des urgences et de médecine générale à l'hôpital Chifra de Ouagadougou. Il est hypocondriaque ou plutôt très très prudent, hein, selon ses propos en ce qui concerne sa santé. Tous les Français connaissent l'animateur, producteur télé Michel Drucker. Nous le découvrirons, patient qui multiplie examens et IRM et garde toujours les coordonnées d'un spécialiste à portée de main. Une nouvelle résistance à l'un des principes actifs des derniers traitements contre le paludisme, l'artémisinine. Résistance observée au Rwanda, dont on va parler en fin d'émission avec Didier Ménard, docteur Didier Ménard, directeur de recherche à l'Institut Pasteur, chef de l'unité génétique du paludisme et résistance.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Pellissolo, je suis hypocondriaque, non pas moi, c'est le titre du 4e chapitre de votre ouvrage. Vous êtes votre meilleur psy publié chez Flammarion. Peur d'attraper une maladie, certitude d'être atteint d'une maladie. Est-ce qu'on doit distinguer les deux quand on est face à quelqu'un d'hypocondriaque? Est-ce qu'il y a, on va dire, deux types de craintes?
Alors les deux composantes coexistent, la peur est de toute façon sous-jacente, mais il y a en plus effectivement chez l'hypocondriaque maladif, on va dire, une forme de certitude, ou en tout cas une vraie difficulté à faire la part des choses. Alors je crois que si on veut être encore plus large, moi je pense qu'une définition la plus complète, c'est l'obsession de la maladie en fait. C'est-à-dire qu'à la fois on y pense, on y repense, ça fait peur et ça devient une idée fixe.
Et justement, comment on sait qu'on a face à soi, je pense là, un généraliste qui est en consultation, un patient qui va lui poser énormément de questions, quelqu'un qui est juste préoccupé de façon très saine sur sa santé. À l'inverse, ce généraliste va dire, là, il y a quelque chose, peut-être que je vais adresser ce patient vers un service en charge de santé mentale, parce que là, il y a quelque chose qui va un petit peu trop loin.
Alors bien sûr, cette orientation, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide, parce que évidemment, on peut être hypocondriaque et malade, et avoir des maladies physiques ou de tout ordre, et donc on va d'abord vérifier l'état de santé de la personne. Et je crois que ce n'est qu'après une relation peut-être de confiance même, au bout d'un certain temps, quand on aura l'impression que cette crainte est vraiment tenace, parce que la crainte momentanée, je pense qu'elle est tout à fait normale, on peut avoir tout d'un coup besoin d'être rassuré par son médecin.
Surtout qu'on est abreuvé de campagnes de prévention. Alors, tout à fait efficaces, mais peut-être des fois un petit peu inquiétantes.
Absolument. On est dans une époque où on fait beaucoup d'informations, on prône la prévention, les principes de précaution parfois, et puis en ce moment, c'est encore plus net. Donc évidemment, toute inquiétude n'est pas une hypocondrie maladive. Et donc je crois que la première fois, par exemple la première consultation d'un généraliste, on va juste explorer, rassurer. Et puis si finalement la semaine suivante ou les semaines qui suivent, il y a tout le temps ce type de démarche, de demande de réassurance. Là, il faut effectivement accompagner, ne pas évidemment passer juste la main, parce que le médecin généraliste a toute sa place dans le suivi par ailleurs, mais au moins avoir un avis complémentaire, parce que bon, dans nos définitions, l'hypochondrie, c'est au moins depuis 6 mois, vous voyez, donc on ne va pas se décider au bout de 3 jours pour dire là, il y a un problème chronique.
Vous citiez justement notre contexte actuel, hein, cette année de la pandémie de coronavirus, 6 mois déjà que l'OMS a annoncé justement que cette portée était tout à fait significative et mondiale, professeur Pellissolo. Ce contexte, est-ce que vous avez constaté, vous, que c'était de nature à augmenter, on va pas dire de quantité, le nombre d'hypochondriaques ou peut-être d'aggraver les symptômes chez les personnes déjà concernées?
Eh bien, les deux. Je pense que ça fait monter d'un cran, en fait, l'inquiétude légitime de toute la population. Les patients très anxieux, alors qui sont d'ailleurs aussi, moi je vois beaucoup de personnes qui souffrent de troubles obsessionnels, hein, compulsifs, qui évidemment sont aussi concernés par cette situation de contamination dans leur thématique. Donc, et les hypochondriaques, évidemment, montent d'un cran dans leurs angoisses. Et puis, la population générale, de manière un peu adaptée, justifiée, au départ, ben, s'inquiète plus. Donc effectivement, le souci pour la santé, et voire même cette hypervigilance, parce qu'en fait, dans l'hypochondrie, il y a cette hypervigilance pour les symptômes, évidemment augmentée et de manière, encore une fois, assez pertinente. Hein. On dit bien aux gens, mais surveillez-vous, prenez votre température, faites attention. Donc ce n'est pas complètement absurde. Sauf que voilà, il y a un moment où c'est peut-être excessif et qu'il y a une souffrance supplémentaire qui est celle de cette obsession.
Justement, l'aspect souffrance dans l'hypochondrie, est-ce que c'est systématique ou finalement est-ce qu'il y a des hypochondriaques heureux ?
Alors, la souffrance est toujours complexe hein, dans la psychologie humaine. On peut effectivement, je dirais, aménager un système de pensée dans lequel on trouve son compte dans un rapport particulier à son corps, là en l'occurrence à la maladie. Alors si effectivement il y a strictement aucune souffrance perçue, ni pour soi, ni éventuellement pour les autres, ça peut être une des conséquences, ni de complications dans la vie quotidienne en termes, je sais pas, d'incapacité à faire des choses, ou alors d'un excès, par exemple, de consultation. Bon, on peut être dans quelque chose qui est une particularité qui n'est pas forcément maladive. Mais c'est rarement ça, et en tout cas, quand c'est ça, il faut être sûr que derrière, il n'y a pas un système de protection qui fait qu'on ne ressent pas la souffrance de manière immédiate, mais on l'a quand même derrière. Donc, dans tous les cas, c'est toujours bien d'en parler avec quelqu'un.
Est-ce que le déni, c'est une composante en tant que telle de l'hypochondrie, où il y a des personnes qui disent « je n'en peux plus de m'inquiéter, je n'en peux plus d'avoir des insomnies, je n'en peux plus même d'embêter mon entourage avec ça, je perds des amis, peut-être même que j'ai cassé une belle histoire d'amour à cause de ça ». Est-ce qu'il y a des gens qui disent « à l'aide, je suis hypochondriaque » ?
Alors cette prise de conscience, elle est souvent assez tardive, c'est-à-dire que pendant toutes les phases de début et parfois longtemps, la préoccupation est tellement forte sur la maladie elle-même qu'on se pose pas la question de savoir est-ce que c'est trop. Et on a besoin d'être rassuré. Donc évidemment, quand on est dedans, c'est très difficile de dire je suis hypochondriaque. Moi, j'ai rare. Et même pour des gens dont on est convaincu qu'ils le sont et qu'on a vu et revu, alors ils finissent par faire un peu confiance. Mais il y a quand même cette crainte derrière qu'on passe à côté de quelque chose et que si on a une étiquette, ça c'est un mauvais terme, mais souvent on parle comme ça d'hypochondriaque, que les médecins, par exemple, ne s'occupent plus de vous. Et donc, cette crainte, elle est très forte. Elle est vraiment dans les tripes. Et donc, quand il y a vraiment beaucoup de retours de l'entourage qui dit il y a vraiment un excès, et puis certaines personnes qui, par moment, parce qu'il peut y avoir des poussées, puis des moments où les choses se calment un peu, où là, on peut prendre plus de distance. Donc là, heureusement, on peut faire la démarche de se dire, bon, il y a un problème, et notamment essayer de trouver une solution à ce problème.
Un témoignage avant de vous retrouver, professeur Pellissolo, avec une voix très, très familière hein, pour beaucoup d'entre nous. Michel Drucker, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être que certains de nos auditeurs sont plutôt étonnés de vous entendre dans un magazine qu'on consacre aux hypochondriaques, parce que vous l'êtes. Depuis quand est-ce que vous savez que vous êtes concerné par ce trouble anxieux ?
Hypochondriaque, il faudrait voir. Je suis plutôt quelqu'un qui fait de la prévention permanente, parce que je viens d'un milieu médical. Mon père était médecin, mon frère Jacques était professeur de santé publique, épidémiologiste, éminent professeur. J'ai grandi dans le milieu médical et j'ai vu quand j'étais gamin les dégâts dans la France profonde de Normandie des années 50-60, les dégâts que pouvait faire l'absence de prévention. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens qu'on a maintenant. Donc, hypochondriaque, Peut-être, mais surtout soucieux de sa santé en permanence, oui.
Un homme prudent, est-ce que ça veut dire que vous voyez très souvent le médecin, Michel Drucker ?
Oui, je vais vous faire sourire. Au moment où vous m'appelez, je suis en train de faire mes check-up annuels.
Mais voilà. Ça, c'est de la prévention.
Voilà, je fais mes check-up tout le temps, tous les ans. Toutes les spécialités y passent. Voilà, mais j'ai toujours été comme ça. Quand je suis rentré dans ce métier à 20 ans, j'étais déjà comme ça. Mmh. Je me suis toujours soucié de ma santé parce que j'ai eu le coup de foudre pour mon métier en arrivant il y a 57 ans, puisque je commence ma 57e saison. Et mon père m'a toujours dit, si tu veux durer, il faut ne jamais entamer le capital le plus important qu'est la santé. Donc c'est vrai. Je fais de la prévention permanente, c'est vrai, je fais des bilans sanguins régulièrement, je fais des examens permanents, je suis familier des IRM, des scanners, des échographies, tout ça, ça fait partie de ma vie.
Est-ce que c'est quand un symptôme vous alerte ou est-ce que c'est, on va dire, à échéance régulière, un petit peu selon un calendrier prévu ?
Comme dans mon métier, j'ai toujours voulu anticiper. Mmh. Bon, et puis quand on voit ce qui se passe en ce moment, l'époque est plutôt à la prévention. Hein, mmh. Donc, alors évidemment, dès que j'ai un peu de fièvre, dès que je me prends le pouls, dès que je sens avant une émission que j'ai un petit peu d'arythmie cardiaque, des extrasystoles, parce que je connais la médecine par cœur, c'était mon rêve d'être médecin en plus. Bon,
eh bien, vous avez réussi ailleurs en tout cas.
Oui, enfin, mon père disait finalement que c'était devenu médecin des âmes, mais mon rêve c'est d'être médecin.
Ce contexte de coronavirus, vous venez justement de l'évoquer rapidement. Est-ce qu'on va dire que ça vous a particulièrement inquiété, vous, ou finalement vous êtes reconnu comme tout le monde dans la rue, monsieur tout le monde, inquiet pas plus qu'un autre ?
Ben, j'étais très attentif. J'ai vu surtout un nombre invraisemblable d'épidémiologistes, de spécialistes, d'infectologues en tout genre, alors que personne ne savait rien. Et que si on savait, ce serait plus facile. Et quand on aura le vaccin, ce serait plus facile. Mmh. Mais j'ai suivi ça, évidemment. Et puis, je me suis un petit peu lassé, parce qu'à force de voir sur les plateaux de télévision le défilé de médecins, de spécialistes, chacun donnant son avis, contradictoire avec les autres, c'était devenu un petit peu le café du commerce. Je me suis un petit peu lassé de tout ça. Et puis, j'observe comme tout le monde, je lis, et je vois que le monde entier, la planète entière s'interroge. C'est pas seulement français. Hein.
C'est mondial. Est-ce que parfois vous aimeriez être un petit peu moins préoccupé justement par ces questions de santé, un petit peu libéré de tout ça, on va dire, un petit peu plus insouciant ?
Pas du tout. Pas du tout. Quand je me réveille et j'ai rien, je suis inquiet.
Excusez-moi de sourire, mais est-ce que du coup les médecins ils doivent intégrer ça quand ils vous reçoivent, ils l'intègrent ou tout le monde le sait ?
Non, mais ils n'ont même pas besoin d'intégrer. À chaque fois, je sais ce que je veux faire. Exactement. Donc, je vais au laboratoire, je dis, faites-moi le cholestérol, faites-moi le PSA, faites-moi les globules blancs. Ils savent tout. Faites-moi tout ça, je sais. Quand je vais chez le cardiologue, j'ai dit, faites-moi telle échographie. Quand je fais un IRM cérébral, je me souviens exactement où en sont mes neurones, hein, parce que je veux continuer à bien fonctionner.
J'ai une dernière question, Michel Drucker. J'imagine que vous avez, comme tout Français, un médecin référent. Vous faites confiance à vos médecins ?
J'ai un généraliste, un petit médecin de village qui ressemble à mon père, mais beaucoup plus jeune, qui a un diagnostic très juste. Et puis, je connais tous les spécialistes. Et j'ai poussé la sophistication à un point d'habiter à côté d'un radiologue, à côté de la clinique des yeux, à côté d'un laboratoire médical et à côté des pompiers. Voilà, donc il ne peut rien m'arriver de grave.
En tout cas, vous avez toutes les bonnes personnes autour de vous.
Ma femme me dit la seule spécialité qui te manque, c'est la psychiatrie.
J'aurais jamais osé vous le dire, mais je pense que c'est une excellente conclusion, Michel Drucker. Voilà. Et je vous remercie infiniment pour votre disponibilité.
Je vous en prie.
Et puis d'autres...
Je salue tous les amis de RFI qui me reçoivent à travers le monde et que je connais.
Et qui vous connaissent aussi. On vous remercie infiniment. Au revoir.
Bientôt.
Au revoir. Alors Michel Drucker, habitué des plateaux télé, on vient de l'apprendre, habitué des laboratoires d'analyse et des consultations. Réaction après ce témoignage, professeur Antoine Pellissolo.
Alors je crois que vous avez trouvé la bonne illustration de ce que vous appeliez l'hypochondriaque heureux, parce que en effet, avec cette organisation, cette intelligence aussi, parce que évidemment tout ça est assez construit, Michel Drucker a trouvé son équilibre et ne semble pas trop angoissé, parce que vraiment pour le critère qui nous concerne nous de savoir est-ce que vraiment c'est trop et il faut faire quelque chose, c'est quel est le niveau d'angoisse. Et on n'a pas l'impression qu'il soit, à l'écouter comme ça en tout cas, dans une angoisse forte en dehors de l'inquiétude et qui sur laquelle il a des solutions pour se rassurer.
D'autant plus qu'on peut avoir deux attitudes complètement différentes, professeur Pellissolo. Il y a ceux qui cherchent les réponses de manière compulsive et puis de l'autre côté, il y a ceux qui font l'autruche et là peuvent vraiment passer à côté par peur d'un diagnostic important.
Oui, c'est vraiment les deux excès, soit pas assez, soit trop. Alors pas assez, c'est notamment cette certitude qu'on va trouver quelque chose de catastrophique et on se sent vraiment pas prêt à ça et on se dit bon, comme vous disiez, c'est l'autruche, c'est-à-dire on verra plus tard. Et c'est assez délétère parce que évidemment, certains examens sont quand même nécessaires. C'est bien d'être rassuré et quand il faut faire quelque chose, autant le faire tôt. Donc vraiment, il y a ce risque d'évitement qu'on connaît dans toutes les formes d'anxiété et qui peut être dans certains cas effectivement délétère.
Et est-ce que l'émergence d'Internet a changé la donne en matière de patients hypochondriaques, de symptômes et de prise en charge ?
Oui, beaucoup, évidemment. Alors, on a même créé un terme un peu à la mode qui s'appelle la cyberchondrie, qui est ce comportement compulsif d'exploration des sites, notamment médicaux, sur Internet pour trouver une explication à tel ou tel symptôme. Et en effet, c'est infini. Mmh. Avant, on avait une encyclopédie, il fallait aller à la bibliothèque, et bon, ça pouvait être assez limité dans le temps. Là, on a tout le temps sous la main l'accès à toute la bibliothèque médicale. Et ça peut devenir vraiment ce risque d'obsession et de compulsion derrière qui est sans fin. Et puis, il y a aussi l'accès éventuellement à des examens plus facilement. Il y a les objets connectés qui créent aussi la capacité, ou même enfin, plutôt l'illusion, d'une surveillance permanente. Et quand on surveille son corps en permanence avec ce que disait Michel Drucker tout à l'heure, par exemple, on a des capteurs, et évidemment on va trouver des choses parce que le corps n'est jamais à l'équilibre complet et donc c'est un signal d'alerte qui va être un moteur de cette angoisse et c'est sans fin. Donc il faut apprendre à utiliser ces outils à bon escient parce qu'ils ont un intérêt évidemment, plutôt en étant guidé par un spécialiste.
Alors les pistes, les conseils, quelle prise en charge, on va aborder ces questions en donnant la parole à nos auditeurs. C'est tout de suite dans Priorité Santé.
Allô ? Priorité santé. Sur RFI.
Et avant de retrouver un auditeur en direct, témoignage, question enregistrée sur notre répondeur, on rejoint le Cameroun avec Adamou.
Bonjour, c'est Adamou. Je suis hypochondriaque. Je le dis parce que j'ai toujours l'impression de souffrir d'une maladie grave, d'avoir de douleurs excessives et au fond, il n'en est rien. Je prends quelques exemples. Il y a cela quelques années, il y avait eu une épidémie de choléra dans ma ville. Et chaque fois qu'il y avait des cas dans le voisinage, je ressentais quelques symptômes de la maladie. Or, quelques heures plus tard, tous ces symptômes disparaissaient et je me sentais très bien. De même, avec les piqûres de moustiques, par exemple, à chaque fois qu'un moustique me piquait, je me dis, c'est déjà le palud direct. Or, après quelques heures, je ne ressens plus rien. Et après avoir fouillé sur Internet, je me suis rendu compte que c'est de l'hypochondrie dont je souffre. Donc ma question, c'est de savoir comment me défaire de cette angoisse et comment mieux la gérer. Parce que j'en souffre tellement et ça dure depuis ma tendre jeunesse. Merci bien.
Adamou qui a besoin de conseils, peur du choléra, peur du palud. C'est vrai, quand on vit en milieu tropical, il y a des risques supplémentaires pour la santé, d'autant plus que le contexte sanitaire est parfois un petit peu compliqué, pas facile parfois d'accéder à certains tests, à certains traitements. Comment est-ce qu'on peut l'aider à gérer tout cela? Déjà, ce qu'on constate, professeur Pellissolo, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience.
Oui, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour lui. Malheureusement, ça ne suffit pas en soi, mais ça veut dire qu'il a déjà pu identifier quelque chose d'excessif. Et puis, une tendance de sa personnalité. Ce qu'il décrit bien aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler les somatisations qui sont trompeuses, parce que évidemment, dès qu'on fait attention à ce qui se passe dans son corps, on va repérer des choses et parfois même le stress s'exprime sous forme de somatisation. Donc c'est un vrai cercle vicieux. J'ai peur d'être malade, je ressens quelque chose, donc ça confirme que je suis malade. Donc c'est tous ces mécanismes-là qu'on peut déjà essayer de démonter, c'est-à-dire de s'informer un petit peu là de manière rationnelle sur d'où peuvent venir ces symptômes pour pouvoir les interpréter autrement, parce que un symptôme ne veut pas dire une maladie. C'est pas parce qu'on a mal au ventre qu'on a une maladie grave, ça peut être tout à fait banal. Donc c'est d'abord cette réflexion-là. C'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un en face pour avoir un regard un petit peu objectif sur tout cela. Il peut y avoir aussi un vrai intérêt quand même à réfléchir sur les racines un peu de cette inquiétude, parce qu'il y a souvent des histoires personnelles qui peuvent les avoir en tout cas nourries, et parfois c'est pas toujours, mais souvent ça peut être utile quand même de revenir un petit peu sur certains événements qui ont pu être quasiment des traumatismes pour comprendre cette tendance forte.
En tout cas, Adamou, peut-être en parler, je ne sais pas s'il y a un centre de santé à côté de chez vous, un interlocuteur, une infirmière, quelqu'un qui pourrait vous rassurer au fur et à mesure et puis expliquer, parler avec vous pour faire baisser ses craintes quand elles vous submergent, puisque vous le dites, à chaque fois que vous avez fait des tests, bien évidemment, vous n'étiez pas concerné par ces maladies graves. Professeur Pellissolo, d'autres questions dans quelques instants après une pause musicale. On retrouve tout de suite Mahalia avec Simmer.
Too hard. Sometimes you go too far. No, I won't want you if you need me. Real things do not come easy. No, never been your average girl. So take time with me, take time. Baby, talk to me with some action. We could find a place for your passion. No, cool down some more. Cool now, please me. Cool now, sinner. Cool down, love. Cool now, some more. Cool now, please me. Cool now, sinner. Cool down, love. Sometimes I want you close. Sometimes I want my space. Just know I'm gonna call if I need you. It's not my job to please you. No, never been your average girl. So take time with me, take time. Baby, talk to me with some action. Think I got a place for your passion. No, cool down some more. Cool now, please me. Cool now, sinner. Cool down, love. Cool now, some more. Cool now, please me. Cool now.
Mahalia sur RFI, priorité santé, on continue de parler d'un trouble anxieux, l'hypochondrie. S'inquiète à outrance pour sa santé, imaginez le pire, obsession difficile à gérer pour le patient, comme pour son entourage et peut-être aussi pour son médecin, professeur Antoine Pellissolo. Quand on se retrouve avec quelqu'un qui sait tout, surtout en matière de santé, quand on doit le soigner, ça doit être un petit peu compliqué, non? Mais déjà, ça se ressent avec, on en parlait tout à l'heure, avec Internet, hein, les gens qui ont déjà une idée en tête avant d'arriver. Mais face à un hypochondriaque, ça se complique encore?
Oui, alors déjà, trivialement, ça énerve souvent au début, et puis il faut prendre sur soi, parce qu'on a l'impression qu'on va pas pouvoir apporter grand-chose de plus. Alors, le plus souvent, quand même, ces informations recueillies ailleurs sont très utiles, donc on va pas les dénigrer, mais c'est vrai que on est là pour aider à faire le tri, en fait, dans ces informations, et avoir le regard extérieur et si possible, professionnel. Donc, tout le travail, je pense, avec ce type de situation, c'est de vraiment d'instaurer un climat de confiance, une relation de confiance pour que, à terme, petit à petit, ça peut pas se faire d'un coup, que la personne puisse avoir un référent médical, et en général c'est le médecin généraliste, et pas deux, pas trois. Alors, Michel Drucker, encore une fois, c'était l'exception, parce qu'en plus, peut-être, il peut se le permettre, mais il vaut mieux avoir un seul référent qui va décider de ce qu'il faut faire ou pas, et dans la mesure du possible, c'est un long travail, mais lui faire entièrement confiance, parce que sinon, on pourra toujours trouver d'autres avis, et c'est ça qui est perturbant, parce qu'on a toujours l'impression que les informations qu'on a ne sont pas certaines. Donc, il faut arriver à cette relation de confiance pour pouvoir faire un plan de soins qui soit rationnel et utile.
Et on insiste au quotidien là-dessus, hein. Soigner, c'est aussi établir la confiance avec les personnes qui s'occupent de nous. On va donner la parole à un autre auditeur de l'émission. On retrouve tout de suite Laurent, qui est en ligne du Bénin, de la ville de Djougou. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Caroline.
Alors, quand on a décidé de faire cette émission sur les hypochondriaques, vous avez réagi. Alors, dites-nous pourquoi vous pensez être hypochondriaque.
Je pense que je suis hypochondriaque parce que j'étais resté auprès de mon père pendant toute la période de son diabète. Et in fine, cette maladie a eu raison de lui. Mmh. Et depuis lors, lorsque je sens la fièvre, le rhume ou encore lorsque ma sinusite se déclenche, j'ai l'impression que j'étais également atteint du diabète parce que d'après les informations que j'ai reçues, serait une maladie héréditaire.
Vous savez, Laurent, que le diabète est une maladie héréditaire. Est-ce que vous connaissez les tests de santé qui existent pour savoir si, oui ou non, vous êtes atteint du diabète?
Non, pas du tout.
Est-ce que vous avez déjà posé la question à un médecin?
Oui, souvent quand je leur parle de ça, ils me disent « bon, je suis trop jeune pour avoir cette maladie et que j'aurai, en tout cas avec le temps, j'aurai des informations supplémentaires. Pour le moment, qu'ils vont me diagnostiquer juste c'est le palu ou le rhume ou c'est la sinusite. »
Et si vous faisiez un examen de santé, est-ce que vous seriez rassuré, Laurent?
Oui, oui.
Rassuré sur le moment ou la semaine suivante, quand vous aurez un autre rhume ou à nouveau de la fièvre, vous serez inquiet à nouveau? Laurent, on a perdu, qu'on va essayer de retrouver, en tout cas par rapport au début de cet échange, professeur Pellissolo, on a bien entendu, vous y avez fait référence tout à l'heure, quand on a eu dans sa famille quelqu'un de malade, ça peut justement ensuite nous influencer par rapport à ses craintes.
Oui, entièrement, là c'est pas du tout un détail, c'est le père de Laurent, une maladie qui s'est mal terminée, donc évidemment tout ce qu'on a pu avoir comme souffrance se matérialise sous cette crainte, et d'autant plus que bon, il y a cette notion d'hérédité, donc ça complique évidemment les choses, et puis peut-être là l'absence de moyens de se rassurer vraiment. Donc vous avez posé les bonnes questions, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins de manière tout à fait, je dirais, espacé dans le temps pour avoir la surveillance médicale nécessaire. Et si la réponse n'est pas rassurante, alors qu'elle devrait l'être de manière médicale, c'est plutôt dans l'aide là, psychologique et sûrement dans la gestion du stress. Hein,
parce que dans ce cas particulier, c'est une maladie en particulier. Vous, face à l'hypochondrie que vous rencontrez dans votre pratique médicale en tant que psychiatre, en général, les personnes ont peur de plusieurs maladies ou ils se ciblent sur une maladie?
Ça dépend, en fait. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir une maladie principale. Alors là, l'histoire de Laurent, parce qu'il y a le père, mais il parlait quand même un peu aussi, d'autres infections, des infections. Donc, il y a probablement un terrain favorable. Et puis, pour des raisons histoire personnelle, ça va se focaliser sur une maladie ou l'actualité générale. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui passent de l'une à l'autre quand même. Donc, ça va être le cancer, ensuite ça va être le sida. Enfin, il y a eu comme ça souvent des époques. Mais je pense que c'est plus le mécanisme dans ce cas-là qu'on retrouve que juste le fait que ça soit telle ou telle maladie.
En tout cas, Laurent, pour vous rassurer, si un jour vous êtes vraiment inquiet, faire le test pour savoir si oui ou non on a du diabète, savoir si on a du sucre dans le sang, c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup de porte-monnaie. J'imagine que vous avez même les ressources pour le faire. Donc, n'hésitez pas à demander à votre médecin de le faire. Si ça peut vous rassurer pour un temps, ça pourrait être aussi, bien sûr, vous n'allez pas répéter ça toutes les semaines, pas question, mais une première fois de le faire, pour une fois pour toutes, vous dire, cette maladie a concerné mon papa, c'est vrai. C'est une maladie héréditaire, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand je fais ce test, eh bien, elle ne me concerne pas.
D'accord, merci.
Je vous remercie beaucoup de votre appel, en tout cas, Laurent. Ce qu'on va voir maintenant avec Laetitia, c'est que quand on est hypochondriaque, ça peut concerner la personne directement, mais aussi l'entourage. Laetitia qui est en ligne du Sénégal, de Dakar. Laetitia, bonjour.
Bonjour, Caroline.
On est à l'écoute. Le professeur Pellissolo vous écoute. Racontez-nous.
Bonjour, professeur Pellissolo. En fait, j'ai une amie qui est hypochondriaque. Elle a commencé avec des douleurs d'estomac et ensuite je lui ai dit que ça pouvait passer. Les douleurs d'estomac, c'est pas tous les jours, que ça pouvait passer et tout. Après, elle m'a dit qu'elle avait le vidal et ensuite elle m'a parlé de fièvre jaune. Elle a énormément de médicaments chez elle. Mais lorsqu'on est ensemble, elle va bien, on mange, on boit, on fait la fête. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, Nous passons des heures au téléphone, elle m'explique qu'elle a mal aux jambes, elle a mal au bras, elle a mal au cou, qu'elle a du mal à fermer ses yeux. Et après, ça me fait énormément de mal parce que après, je me sens malade moi-même après. Donc, je me demande comment lui parler pour ne pas pouvoir la frustrer.
Alors, Laetitia, elle vous en parle à vous. Elle en a parlé à des médecins. Elle a passé des examens quand elle était très inquiète.
Oui.
Et à chaque fois, on lui a dit quoi ?
Bon, pour les douleurs d'estomac, elle n'a rien. Elle n'a pas de blessure au niveau de l'estomac. Concernant les autres examens, elle a des médicaments. Vu qu'on a une assurance santé, elle suit des traitements, mais qu'elle ne termine pas. Elle ne termine pas. Elle va à l'hôpital pour telle maladie. On lui donne des médicaments. Elle commence avec un traitement et les termine.
Votre correspondant est
en commun. On a un problème de ligne. Hein. Hélas, ça a coupé en pleine discussion avec Laetitia. Ce qu'on entend et ce qu'on disait tout à l'heure, professeur Pellissolo, c'est l'impact pour l'entourage. Même si cette jeune fille, a priori, est traitée pour diverses choses. Justement, comment est-ce qu'on gère une armoire à pharmacie quand on est hypochondriaque ?
Alors c'est le piège aussi, parce qu'évidemment on peut toujours espérer, et on trouve en fait des réponses dans certains médicaments qui vont soulager sur le moment. Quand ils ne sont pas justifiés, malheureusement on prend des risques, hein, parce que tout médicament a des effets secondaires, donc il faut vraiment s'en remettre au médecin pour ce qui est des prescriptions. Alors il y a aussi de l'automédication et des médicaments qui sont vendus sans ordonnance, mais quand on se sait hypochondriaque, je pense que même pour des médicaments en auto-prescription ou là qui sont vendus librement,
en pharmacie,
il vaut mieux s'en remettre quand même à l'avis d'un médecin qui vous dira là c'est justifié ou là c'est pas justifié. Parce que sinon, en fait, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo qui fait on va se sentir mieux juste après, et donc on va recréer le besoin de prendre ces médicaments. Et l'entourage, puisque c'était un peu la question posée par Laetitia, c'est vraiment une problématique importante à soulever. Le positionnement n'est pas simple pour l'entourage, parce que il y a l'idée évidemment de pas rejeter la personne en la critiquant, parce que c'est évidemment c'est pas de sa faute, la prise de conscience n'est pas évidente. L'idée aussi de la rassurer en permanence ne fonctionne pas bien, et on sait que c'est un piège aussi, parce que plus on va donner des réponses, plus on aura besoin de reposer la question. Donc il faut trouver un angle un peu différent de soutien, de bienveillance, mais en gros de tout faire pour essayer de décaler un petit peu les préoccupations, en essayant de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait faire souffrir la personne dans le fond, et puis aussi essayer de la divertir et faire des choses positives quand on est proche, plutôt que de prendre, je dirais, comme sujet des discussions, la santé directement de front, et en tout cas pas de poser d'étiquettes comme ça qui seraient péjoratives.
En tout cas, on a Laetitia en ligne grâce à la persévérance de Didier Chérouse au téléphone avec elle. Laetitia, est-ce que cette réponse vous a convaincu ? Ce qu'on a compris, c'est que quand vous rencontrez votre amie, la première question à lui poser, c'est pas forcément « Bonjour, comment ça va ?» hein ?
D'accord.
En tout cas, vous êtes une bonne amie, et ça, c'est très très précieux quand on a des soucis. En tout cas, on vous encourage, et merci beaucoup pour votre amie. Merci pour ces témoignages, et on va voir comment ça se passe dans un contexte sanitaire différent du vôtre, professeur Pellissolo, puisqu'on prend tout de suite la direction du Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou. 94 FM.
En ligne avec nous, docteur Gloria Damoaliga-Bergues, bonjour.
Bonjour Caroline.
Ravie de vous retrouver. Vous êtes médecin général et chef de service des urgences et de médecine générale à l'hôpital Chifra d'Ouagadougou. Hypochondriaque, docteur Bergès, est-ce que la population au Burkina, on est familiarisé avec ce mot ? On est familier avec ce mot ?
Alors, dire qu'on est familier avec ce mot, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais par contre, en tant que praticienne, je reçois des patients sur qui ou chez qui je pose justement ce diagnostic d'hypochondriaque. Et dans le contexte du Covid, j'en ai déjà même reçu deux. Un en pleine épidémie, qui était persuadé de souffrir des symptômes. Et l'autre qui a fait le Covid et qui a peur d'en refaire. Et donc, qui vit les symptômes tous les jours depuis 6 mois, quand bien même il a été déclaré guéri. Donc, il me vient avec déjà le tour des médecins et pas mal d'examens, mais qu'on ne voit pas physiquement ce qui ne va pas. Donc, il y a un trouble, une anxiété exagérée par rapport à ça.
Et en échangeant avec vous, docteur Bergès, il réussit à retrouver confiance. On sait qu'il y a d'énormes manques en Afrique subsaharienne au niveau des praticiens, des spécialistes en santé mentale. C'est vous, la généraliste, qui l'aidez justement à dépasser son anxiété ?
Mais en tout cas, la généraliste ou le généraliste a une place importante. Parce que ce patient en question, la relation de confiance est ce qui est essentiel. Mm-hmm. Dès que le patient a confiance en toi ou a confiance en son soignant, il accepte l'information juste qu'on lui donne. Et ce patient en question a commencé à faire justement sentir le mieux depuis un certain temps, quand bien même on continue de faire des examens physiques pour compléter et le dissuader de tout ce qu'il a comme crainte. Et par moment, quand on est dépassé en tant que généraliste, on l'envoie vers le médecin psychiatre, tout en sachant qu'ils ne sont pas forcément toujours, ils ne sont pas nombreux. Mmh. Et aussi, il y a de la réticence par peur de la stigmatisation, parce qu'en Afrique, la psychiatrie ou la santé mentale est perçue autrement.
Mmh. En fait, les gens ont peur qu'on les prenne pour des fous, tout simplement, hein, pour utiliser ce mot qui ne veut rien dire, mais c'est quand même bien de cela qu'ils ont peur. Et vous êtes là pour les rassurer. Avant le Covid, docteur Bergès, vous aviez rencontré d'autres hypochondriaques qui avaient des craintes fondées ou infondées. On sait qu'il y a eu le contexte d'Ebola, là aussi il y a dû y avoir un sacré vent de panique, mais il y a quand même une différence entre justement la peur dans un contexte de crise qui est justifié, hein, chacun l'a eu à un moment donné quand on se racle la gorge en se disant, est-ce que moi aussi je ne serais pas malade ? Et puis des gens vraiment qui n'arrivent pas à s'en débarrasser.
Oui, absolument. Et il y a un patient qui m'a particulièrement marqué. Mm-hmm. Je n'ai plus eu le devenir de ce patient. Il est venu après 2 ans de parcours pour des symptômes donnés parce qu'il était persuadé de souffrir du VIH. Mm-hmm. Et le dernier contact que j'ai eu avec lui, il était dans mon bureau avec son fils et un linceul blanc. Et il me dit, docteur Bergès, si je vous dis, vous me dites que je n'ai pas le VIH, c'est directement au cimetière que je pars vous donner la mort devant mon fils. Et là, j'étais jeune médecin, il y a peut-être 5 ou 6 ans de cela. J'ai été pris de panique dans un premier temps moi-même, mais j'ai pris sur moi et j'ai essayé d'expliquer avec mes simples mots. Malheureusement, je l'ai orienté bien sûr vers la santé mentale, mais je n'ai plus eu de retour. Pour dire que ce n'est pas seulement dans le contexte du Covid, il y a des patients qui sont en souffrance, qui ont des craintes particulières à cause de leur contexte donné. Peut-être qu'il y a eu une femme qui leur a été infidèle ou quelque chose, et voilà qui tourne, qui n'arrive pas à parler. Mmh. Et voilà pourquoi je profite de cette audience pour justement encourager tous ceux qui sentent des angoisses extrêmes de ne pas vivre dans le secret leur angoisse, mais d'en parler à des agents de santé qui peuvent les aider et ne pas attendre de tomber dans l'extrême comme je l'ai vécu avec ce patient en question.
Et dire qu'il y aura quelqu'un qui les écoutera, qui ne se moquera pas d'eux, qui ne les stigmatisera pas. Et l'anonymat sera gardé pour que tout ça reste entre le soignant et cette personne, c'est essentiel.
Absolument.
On vous remercie, docteur Bergès, d'avoir été en ligne. Merci beaucoup pour ces réponses. On se retrouve, professeur Antoine Pellissolo, pour la dernière partie de notre échange. Et on comprend, parce qu'on a parlé de maladies comme le Covid, comme le VIH, qui, à un certain moment donné de l'histoire, étaient des maladies nouvelles, mais aussi qui ont une particularité, c'est qu'il y a énormément de symptômes. Ça touche de nombreuses parties du corps. Et puis, il y a aussi une forme de peur sociétale qui fait plonger certaines personnes dans l'irrationnel.
Oui, on a une mémoire sûrement de toutes les épidémies ancestrales. Et puis en plus, pour une nouvelle maladie comme la Covid actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes aussi. Donc il y a beaucoup de personnes, comme décrivait la collègue, qui ont des symptômes durables, par exemple, après l'infection, et dont on ne sait pas encore complètement, d'ailleurs, s'ils n'ont pas peut-être des séquelles physiques aussi. Donc ça se mélange avec l'anxiété. Donc toute incertitude nourrit ces peurs. Donc c'est un gros travail d'arriver à faire le tri dans tout ça.
Alors, en psychiatrie, pour un certain nombre de prises en charge, on a recours aux médicaments. Dans le cas précis des personnes hypochondriaques, est-ce que justement le traitement médicamenteux est recommandé ?
Alors je dirais que c'est vraiment pas en première intention. Les mesures principales, c'est avant tout la psychothérapie. Tout ce qui est hygiène de vie, on va dire. Alors pas au sens de faire attention uniquement à sa santé, parce que ça on retomberait dans l'obsession, mais de faire attention à sa santé, on va dire à son état général, c'est-à-dire à bien dormir, par exemple, tout bêtement, parce que plus on est fatigué, plus on est anxieux et on a du mal à gérer son anxiété. Donc bien dormir, faire du sport. Il y a cette notion de prise de confiance, cette fois en son propre corps, mm-hmm. qu'on peut retrouver grâce à des activités physiques, alors qui peuvent être douces, hein, à sa préférence, mais le yoga, tout ce qui tend un peu vers la relaxation, la sophrologie, c'est une façon de reprendre un peu confiance avec son corps. Donc tout ça, c'est des mesures générales très pertinentes. Et puis alors, bon, l'extrême, les médicaments, c'est en gros quand soit il y a une dépression associée, et c'est, ça peut être le cas, soit quand l'anxiété est vraiment invalidante, pénible au quotidien, ou certains médicaments qui sont là aussi plutôt des antidépresseurs peuvent apporter quelque chose. Mais vraiment, ça, c'est du registre du spécialiste qui doit pouvoir juger de l'intérêt.
Professeur Pellissolo, on a parlé de la crise sanitaire, crise hospitalière qui avait précédé, qui n'est d'ailleurs pas vraiment terminée. Il y a eu des réponses du gouvernement français à l'occasion du Ségur de la santé, des crédits, des mesures. Vous, votre spécialité, la psychiatrie, ça fait longtemps que vous alertez sur le manque de moyens par rapport d'ailleurs à certaines spécialités dans la psychiatrie. On en avait entendu parler par exemple à l'occasion de la crise du Covid pour les jeunes en particulier. En conclusion, c'est un autre sujet, mais c'est important d'en parler dans ce contexte que nous traversons. Plus que jamais, il faut pouvoir accueillir les personnes qui en ont besoin en psychiatrie. Il faut des soins, il faut des soignants, il faut des moyens. C'est quoi le message que vous voulez faire passer?
Oui, alors merci de cette question importante. La santé mentale concerne tout le monde. Hein. C'est évidemment des grosses pathologies psychiatriques à toutes les souffrances quotidiennes. Et évidemment, en effet, les services de psychiatrie ont été sous-dotés pendant des années. L'instrument de travail principal, c'est de l'humain, comme on va dire. Donc c'est du personnel. Et c'est vrai que ça coûte un certain prix, mais c'est à ce prix-là qu'on pourra, je dirais, assurer une forme d'équilibre général. Il y a des objectifs, je dirais, tout bêtement d'éthique, de bien-être général, et donc ce qu'on investit dans la santé mentale, on le retrouve de toute façon d'une autre manière autrement. Et vraiment, la psychiatrie est en souffrance. Je pense que ce qui manque, c'est le plus souvent du personnel, que ça soit dans les hôpitaux, que en dehors des hôpitaux aussi. On fait beaucoup de choses auprès de la population directement.
Ouverture des structures en ville.
Exactement. Et puis, ce qui nous manque vraiment beaucoup aussi, c'est des lieux de vie adaptés pour des personnes qui sont encore en souffrance ou en situation de handicap psychique, qu'on est obligé souvent de garder à l'hôpital parce qu'on ne peut pas les laisser sortir autrement, mais qui n'ont pas normalement leur place à l'hôpital. Donc, ce qui manque, c'est aussi des lieux d'hébergement adaptés.
C'est vrai qu'on alerte sur la crise économique, la crise sociale, mais on sait que ces crises diverses, eh bien, elles ont un impact sur la santé mentale. On vous remercie beaucoup, professeur Antoine Pellissolo, d'avoir répondu à notre invitation, psychiatre, chef de service à l'hôpital Henri Mondor. Et ce livre publié chez Flammarion, Vous êtes votre meilleur psy.
Priorité santé sur RFI.
L'artémisinine, c'est aujourd'hui le principal constituant des dernières générations de traitement contre le paludisme que recommande l'OMS, principe actif dans la prise en charge de cette infection parasitaire. Le paludisme, on le rappelle, 228 millions de cas sur la planète en 2018, 405 000 décès, mais désormais, y compris en Afrique où se concentre 90% des cas et des décès du palu, eh bien, des résistances à l'artémisinine ont été observées. Bonjour, docteur Didier Ménard.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut Pasteur, chef de l'unité génétique du paludisme et résistance. Alors, dans quel pays cette résistance a été observée?
Alors, en fait, on a observé ça au Rwanda, sur des prélèvements qu'on reçoit dans le cadre d'un projet avec l'OMS. C'est-à-dire qu'on pratique des tests sur des prélèvements qui sont collectés dans les pays africains et on regarde au niveau de l'ADN du parasite s'il y a des signatures moléculaires qui pourraient prédire l'échec du traitement et donc la résistance des parasites à l'artémisinine en particulier.
Alors cette résistance, elle a déjà été observée en Asie du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Est qui est repérée. Est-ce qu'on peut expliquer cette annonce au niveau d'une nouvelle région du monde? On sait très bien, hein, l'Afrique, c'est absolument essentiel dans la lutte contre le paludisme. Et donc, tous les infectiologues vont suivre cette information de très près.
Bah, oui, c'est une donnée très importante. On a connu donc l'émergence de parasites résistants en Asie du Sud-Est il y a à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire à peu près 5-6 ans après l'introduction de ces médicaments. Et en fait, on s'attendait plutôt à un scénario comme on a vécu avec les précédentes générations d'antipaludiques comme la chloroquine. Mm-hmm. On s'attendait plutôt que les parasites résistants qu'on allait trouver en Afrique provenaient d'Asie, c'est-à-dire que c'était des voyageurs...
Des importations.
Voilà, des importations. Et là, en fait, on a été très surpris. C'est d'abord, un, d'observer des parasites résistants à l'artémisine assez rapidement après l'émergence en Asie du Sud-Est, et surtout de découvrir que ce sont des parasites africains qui ont muté et qui sont capables de résister donc à cette molécule.
On l'explique comment un usage intensif de cette molécule, ou est-ce que la promotion des infusions et boissons à base d'Artemisia annua a pu jouer un rôle dans cette résistance ou pas du tout?
Alors ça, j'en sais rien du tout. Parce que
est-ce que vous avez fait est-ce que vous faites des recherches là-dessus?
Non, pas du tout. Mmh. Non, pas du tout. En fait, je n'ai aucune donnée sur la consommation de tisane. Donc ça, je peux pas le dire. Non, mais en tout cas, c'est sûr que la résistance apparaît ou du moins est sélectionnée par l'utilisation d'antipaludiques. Alors c'est en fait tout le paradoxe. On est bien obligé de traiter les gens avec des traitements efficaces. Mais plus on va utiliser ces traitements, plus on a de risques de voir émerger de parasites résistants. C'est pour ça qu'il faut absolument bien utiliser les traitements à bon escient, aux bonnes doses. Et surtout, comme le préconise l'OMS, de les utiliser en combinaison. C'est-à-dire qu'on utilise l'artémisinine, mais en association avec une drogue partenaire. Donc là, dans notre cas, en fait, on a émergence de parasites résistants à l'artémisinine. Mais la drogue partenaire qui est contenue dans les combinaison les ACT reste efficace et donc permet aux patients d'être guéris.
Et insister sur la prévention, hein, les moustiquaires imprégnés. Si jamais justement, très mauvaise nouvelle pour la santé mondiale, cette artémisinine était de moins en moins efficace, est-ce qu'il y a aujourd'hui des chercheurs qui sont en train de plancher sur de nouveaux principes actifs pour lutter contre le paludisme?
Alors oui, bien sûr, la recherche en fait s'accentue pour découvrir de nouvelles molécules efficaces avec des modes d'action différents de ceux de l'artémisinine. Ça s'accentue en particulier depuis qu'on a constaté qu'il y avait des parasites résistants en Asie du Sud-Est. Donc évidemment, on aura des solutions de rechange au cas où les ACT ne sont plus efficaces. Mais comme vous le savez, il faut quand même un certain temps avant d'avoir ces nouveaux médicaments à disposition.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chercheurs aussi sont très vigilants sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, hein, qui est un autre bassin du palu, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, la RDC.
Bien sûr. En fait, là maintenant, ces données nous renforcent en fait à bien cibler, à améliorer la surveillance de la résistance. Donc il faut absolument savoir l'étendue de cette résistance, sa progression, de façon à pouvoir réagir rapidement, changer les traitements, de pouvoir au moins savoir si le traitement qu'on donne aux populations est efficace.
Et c'est une question bien sûr qu'on suivra dans Priorité Santé. On vous remercie beaucoup, docteur Didier Ménard. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité génétique du paludisme et résistance à l'Institut Pasteur. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Juliette Bro, Steven Hesley et Didier Cherouz, le roi du téléphone. Demain, dans Priorité Santé, on va parler de la santé de nos ongles. Comment les soigner? Qui consulter en cas de problème? Comment interpréter leur changement d'aspect? Ce sont le miroir de notre santé. À demain. D'ici là, portez-vous bien et, comme on le dit chaque jour, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.